La matière, c'est la vie aussi.
Toutes ces idées qui viennent, il faut les attraper comme des mouches quand elles passent. Ce sont des idées bleues, des idées roses, des idées qui passent.
L'art et la matière. Une émission de Jean Deloisy.
Parce qu'on veut transformer la vie pour nous.
Ils empruntent des chemins qui n'existent pas, ils utilisent des formes et des mots inconnus, ils transforment ce que nous savions du monde, ce sont les artistes. Pour vous raconter ces aventures de l'œil et de l'esprit, j'invite écrivains, historiens, commissaires d'exposition ou simplement passionnés, car l'art est leur matière. Aujourd'hui, nous avons un rendez-vous inhabituel. Nous sommes dans les murs du Palais de Tokyo et nous visitons ensemble une exposition très singulière. Une exposition aux enjeux complexes, passionnants. Une exposition qui s'est faite par une trentaine de jeunes d'aujourd'hui et qui nous parle de la société que nous leur avons préparée. Des dangers, des peurs, des révoltes et aussi des chances que le présent leur offre ou, je dirais mieux, des chances qu'ils sont capables d'arracher au présent. Cette exposition, dont le curateur est Hugo Vitrani, est intitulée significativement Jusqu'ici, tout va bien. C'est une rengaine qui est répétée dans le film La haine de Mathieu Kassovitz, qui est à l'origine de cette exposition. Et cette exposition est le fruit d'une collaboration extraordinaire entre le Palais de Tokyo et l'école Courtrajmé, une sorte de verlan pour dire court-métrage, un collectif qui s'est constitué en 2005 après avoir vu La haine. Ce collectif est depuis 2018 devenu une école de création à Clichy-Montfermeil. Elle ne ressemble à aucune autre. C'est Laj Lee qui l'a fondé, et vous savez, comme moi qui avais aussi aimé le film Les Misérables, il a rapidement été rejoint par l'artiste JR et l'interprète Ludivine Sagnier. Cette école offre une formation alternative gratuite sans condition de diplôme de cinéma et d'art. Il suffit de rentrer dans le Palais de Tokyo, de découvrir l'effervescence et la passion et le public plus divers que d'habitude et l'atmosphère qui règne dans les salles dédiées à cette exposition pour se rendre compte qu'elle touche juste. Que contradictions, problèmes, beauté d'aujourd'hui, poésie dans le ciment, expressions justes ou balbutiantes sont transcendées par le collectif et la ferveur qui s'y dévoile. Alors d'accord, alors pas d'accord, peu importe, expression et création, écoutons. Écoutons parce que le sujet est grave et nous allons le voir. Pour cela, nous allons parler avec quelques-uns des jeunes artistes de l'exposition, mais aussi avec ses parrains, ses fondateurs, avec le curateur Hugo Vitrani qui est près de moi, avec JR, avec quelques autres, peut-être Mathieu Kassovitz. Allons voir.
C'est l'histoire d'une société qui tombe et qui, au fur et à mesure de sa chute, se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. L'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage.
Hugo Vitrani, salut.
Salut.
Vous allez bien ?
Très bien, et vous ?
C'est une sacrée aventure, très inattendue, avec un public qui est arrivé, qui est assez différent de celui que l'on revoit d'habitude au Palais de Tokyo.
Oui, c'est un projet assez volcanique qui est arrivé en 2 mois et demi et qui a ramené plus de 16 000 personnes en une semaine au Palais de Tokyo, avec un public très mixé socialement qu'on a rarement vu ici.
C'est comme s'il y avait un désir fou de comprendre et de donner une forme à l'ensemble des tensions qui existent dans notre société. Et c'est comme si ces tensions étaient sans cesse au bord de la formalisation poétique.
C'est vrai qu'il y a une génération de l'urgence qui existe depuis les années 80. C'est comme ça que Joe Starr parlait de cette génération qui a créé le hip-hop. C'était l'urgence de dire des choses. Et on voit que cette urgence est toujours là, toujours présente.
Alors quand on est à l'extérieur du Palais de Tokyo, on voit une immense fresque faite par JR, un collage gigantesque et qui est... C'est pas la première intervention de JR, vous l'aviez déjà invité il y a quelques années. Racontez-nous.
Alors ça fait déjà 3 projets que JR réalise au Palais de Tokyo. C'est un complice depuis des années du Palais de Tokyo. Il aime bien venir torpiller de temps en temps parfois les sous-sols secrets, puisqu'il était déjà intervenu d'une manière secrète pour révéler l'histoire.
Avec Léos Gemeos par exemple.
Avec Léos Gemeos, 2 artistes brésiliens qui sont des peintres, et ils avaient révélé l'histoire secrète du Palais de Tokyo, donc le passé, tous ces pianos stockés et spoliés par les nazis qui étaient dans les sous-sols du Palais de Tokyo.
Dites-moi, l'ensemble des œuvres que l'on voit ici sont en fait le fruit de travaux d'étudiants d'une école Courtrajmé.
qu'est-ce que c'est, cette école?
Alors, l'école Courtrage-Mé, c'est une école alternative qui a été fondée en 2018 par l'Adjli, rejointe en 2019 par JR. C'est une école qui est gratuite, sans condition d'âge ni de diplôme, et qui réunit des artistes qui parfois viennent de découvrir qu'ils sont artistes ou qui veulent le devenir, qui ont parfois d'autres vécus et qui sont venus ici pour révéler leurs nouveaux regards et leurs œuvres.
La production des œuvres a été accompagnée par le Palais de Tokyo. Vous avez aidé à fabriquer, à trouver les matériaux, à trouver l'argent pour fabriquer cet ensemble qui est spectaculaire.
Alors tout a été créé avec les élèves. En 2 mois et demi, on a produit toutes ces œuvres. Il y a 29 artistes qui ont participé. Et l'idée, c'était de faire une exposition qui soit un workshop pour l'école. Comment leur expliquer comment on fait une exposition dans une institution, comment on travaille avec un commissaire d'exposition, avec le directeur de la com, avec des monteurs. Et donc on a tout décidé ensemble, la scénographie, la taille des œuvres, les supports, les formats. Et quand ils avaient des idées, mais ils ne savaient pas comment les faire, on leur a donné l'occasion de travailler avec des monteurs et eux sont devenus les assistants des monteurs. Donc tout a été dans un workshop total pour qu'eux apprennent le monde dans lequel ils sont en train de mettre les pieds mais qu'ils ont envie de bousculer.
Vous êtes d'accord pour qu'on bavarde un petit peu avec JR puisque vous l'avez invité? Parlons-lui.
Juste ici.
Allons-y.
Il faut baisser le masque pour le
parler. Il va falloir.
En plus, avec les masques, j'entends rien.
Ouais. On garde une petite distance. Pourquoi hein, moi,
c'est une chance d'avoir Ernest Mignon-Ernest qui est là parce que, et vous, JR, en fait, il y a une sorte de succession d'engendrement.
Il a la gentillesse de le dire.
Il y a dans votre travail une source pour l'art urbain d'aujourd'hui qui est absolument formidable. Vous êtes intervenu, Ernest Pignon-Ernest, depuis 40 ans, librement, dans la ville, plus que 40
mes
ans.
Mes premiers pochoirs, c'est 66.
Et des collages, comme JR aujourd'hui, pas les mêmes, pas la même technique, mais quelque chose de semblable qui est un don au monde urbain.
Oui, c'est une façon d'appréhender les lieux. Alors, l'important pour nous, ce sont les lieux. Enfin, pour moi, essentiellement. Mes dessins naissent d'une approche des lieux. Alors, j'ai une approche de plasticien, c'est-à-dire que quand je sais que je vais coller une image à un endroit, j'ai vu le lieu à toutes les heures de la journée, je sais la texture du mur et tout. Donc, mon dessin prend en compte ça, mais on prend en compte ce qui ne se voit pas dans le lieu, c'est-à-dire son histoire. Je travaille sur la mémoire des lieux. Voilà. Et mes images, quand je viens les glisser dans un lieu, elles viennent, quand ça marche, en quelque sorte révéler le lieu, quoi. Voilà, la fonction de mes images, c'est ça.
Et en dehors de tout désir commercial, etc., vous êtes dans une sorte de don permanent. JR, vous êtes à la source, si je puis dire, de ce qui se passe au Palais de Tokyo aujourd'hui et de ce qui se passe à Montfermeil également, parce qu'il y a une photographie très célèbre de vous où l'on voit l'Adjli, et Dieu sait que l'Adjli a su utiliser sa caméra comme une arme. Racontez-nous cette photo et puis on va ensuite parler des circonstances.
Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se recroisent dans l'histoire. Déjà, le fait que nous deux nous retrouvions là, toi, Jean et moi, parce que tu m'avais laissé à l'époque avec l'Adge, il y a quelques années, cette même salle. Ernest qui passe à ce moment précis, parce que Ernest est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré quand j'ai découvert son travail. Et donc, c'est un honneur, mais aussi quelqu'un d'extrêmement généreux qui nous a donné un temps très précieux pour les étudiants. Et cette rencontre avec l'Adge quand on était enfant, cette photo qui nous tombe dessus, parce que je ne pense pas à cet âge-là avoir eu le talent de l'avoir prémédité, elle m'est tombée dessus, cette photo, et elle nous a poursuivis toute notre vie. Et que l'Adge, 20 ans plus tard, fasse Les Misérables, son premier long-métrage, 20 ans après cette photo, et qu'il ait cet impact, et qu'il crée cette école de cinéma, que je le rejoigne sur la section art, et qu'on se retrouve dans cette même salle, où déjà on cherchait à réparer ce petit monde, puisque quand on a présenté cette fresque ici, ça s'est fait en toute urgence, une fresque qui représente 850 habitants de Clichy-Montfermeil. Le maire était venu, qui avait porté plainte contre nous 20 ans plus tôt, mais aussi le président de la République. Et les discussions de cette nuit-là étaient même plus intéressantes que la fresque, parce qu'elles venaient à faire des rencontres et des débats entre les habitants et les politiciens qui n'ont jamais lieu. Et c'est des choses que j'ai rarement vues que grâce à l'art, et ce qui m'a donné encore plus foi à me plonger corps et âme dans cette voie.
L'Adjli a effectivement depuis fait Les Misérables. On va rencontrer Mathieu Kassovitz, puisque c'est un hommage aussi à la haine. Au moment duquel s'est constitué ce groupe alternatif, si j'ose dire, dont en verlan, on dit court-métrage, mais en verlan, on dit comment ?
Courtrage-Mé. Et d'ailleurs, il y a même un collectif de filles qui est issu de notre première promo qui s'appelle Courtrage Meuf. Et j'ai leur masque aussi d'ailleurs.
Et donc, il y a une idée que vous avez soulevée à l'instant, et je serais curieux de savoir si l'un et l'autre vous partagez cette idée, c'est celle de la réparation des blessures sociales, possibilité d'en exprimer.
Pour moi, c'est le cas. Moi, je viens aussi d'un milieu exclu, quoi. Vraiment, hein, je suis complètement autodidacte. Je disais tout à l'heure que la ségrégation culturelle, elle n'est pas seulement ethnique, hein, elle est sociale, en effet. Et pour moi, en effet, c'est une réparation totale, quoi. C'est que je me retrouve dans un musée où, je sais pas, l'été dernier, avoir une exposition au Palais des Papes, je n'en revenais pas. Vous voyez, je me disais, mais c'est incroyable, c'est un parcours complètement inattendu. Voilà. Mais c'est pour ça que je me sens très proche, là, de tout ce qu'elle pose avec lesquels j'ai parlé, j'ai eu une grande proximité, quoi. On est dans la même histoire.
Et moi, bien sûr, je crois que la répare, d'ailleurs, je le montre en une exposition très simple qui est en ce moment, au même moment, à la Galerie Perrotin, où j'ai pris une prison maximum sécurité aux États-Unis, qui n'a jamais eu accès à l'art et au monde, puisque la plupart sont là depuis 20 ou 30 ans. Et on a fait un projet en quelques mois là-bas, et l'impact est visible, puisqu'on prend un monde complètement fermé. Visible et mesurable. Et ça m'impressionne toujours. Des fois, il est dans le plus long terme, comme à Clichy-Montfermeil, un territoire sur lequel on travaille depuis plus de 20 ans, et donc on a pu voir. On a commencé avant les émeutes. Donc cette photo de la caméra, on l'a collée sur un immeuble. Ça avait eu peu d'impact à ce moment-là. Mais un an plus tard, les émeutes explosent devant de 2005 avec la mort de Ziad Ebouna, et on la retrouve en background, en fond, de tous les médias dans le monde.
Ziad Ebouna, il faut que les auditeurs se souviennent que c'est probablement les émeutes les plus historiques de la période du 21e siècle en France.
Bien sûr.
Ça a été quelque chose d'absolument déterminant. Et je suis stupéfait de voir que Clichy-Montfermeil, qui est à 15 km de Paris, mais il faut 2 heures pour y aller, tellement c'est mal desservi, etc., est devenu, par l'action de quelques-uns, un réservoir de talent.
Complètement. Et nous, on est... Je pense que c'est... avec l'âge, notre carrière et notre travail et notre vision commencent pendant ces émeutes. Puisqu'on a commencé avant, mais elles forgent notre esprit, elles forgent notre vision. Et elles vont... parce que moi, je me rappelle, juste après les émeutes, enfin même pendant d'ailleurs, les journalistes ou les agences de presse venaient me voir pour me payer pour faire des photos d'émeutiers. Sauf que, faut bien vous imaginer, j'avais 19 ans, j'avais pas de connaissance du monde de l'art, des musées et autres. Et d'un coup, on venait me proposer mon premier travail en tant que photographe. Mais bien sûr que ça me paraissait étrange, puisqu'on me demandait de faire des photos de jeunes qui brûlent des voitures. Mais moi, je les connaissais tous, ces jeunes, et je savais bien que ça représentait qu'une petite minorité. C'était pas cette image qu'on voulait renvoyer. Et je pense qu'à ce moment-là, en décidant de faire mes portraits, de les coller, etc., j'ai pris une autre voie, et ça a complètement influé tout le reste de mon parcours.
Nous voilà dans l'exposition, on va la visiter, on va avoir la chance aussi de rencontrer Mathieu Kassovitz, qui est une des sources de l'exposition, puisque c'est 25 ans après, les suites de la haine dans des lieux presque les mêmes, non ?
Exactement, malheureusement, beaucoup de choses qui n'ont pas changé. Nous, on a notre école au cœur de Montfermeil. Montfermeil qui, depuis les émeutes, a changé, puisqu'il y a eu un plan de rénovation urbaine, mais il y a encore les cités de Clichy
même
et
le
autour.
Maire qui avait porté plainte contre vous est devenu un soutien.
Exactement, c'est assez dingue ça. Ça s'est d'ailleurs passé ici, dans cette même salle, à cette époque, grâce à cette installation que tu avais permise. Mais oui, c'est des contextes très similaires dans une autre époque, puisque aujourd'hui, on le voit bien à travers cette exposition, ce qui a changé, c'est que c'est filmé. Et donc, la force de l'image et la force des images, notamment prises par des téléphones et autres, décuple un monde qu'à l'époque, seulement un film qu'a brillamment réalisé Mathieu Kassovitz pouvait révéler. Sinon, oui, on entendait seulement l'impact ou l'émeute d'un tel événement, mais on n'avait pas tout le contexte autour. Alors qu'aujourd'hui, tout de suite, on a l'image et pourtant, ça ne freine pas. C'est bavure et ça ne freine pas. Donc c'est ça qui est, je pense, où il y a un ras-le-bol, et les étudiants l'expriment à travers des œuvres très puissantes.
L'image ne suffit pas à résister.
C'est fou, c'est fou. Et on le voit et on le commente et ça se reproduit.
La cité des Muguets a vécu cette nuit au rythme des émeutes. Jusqu'au milieu de la nuit, une centaine de jeunes a littéralement assiégé le commissariat de police qui se trouve au milieu de la cité. Les batailles rangées ont fait 14 blessés du côté des forces de l'ordre. 33 émeutiers ont été arrêtés. Les casseurs ont fini par saccager une partie du centre commercial ainsi que quelques bâtiments avant de se disperser à 4 heures ce matin. Ces émeutes font suite à la bavure d'un des inspecteurs du commissariat des Muguets. Il y a 2 jours, il avait sévèrement blessé un jeune de la cité pendant une garde à vue. L'inspecteur a été démis de ses fonctions, mais Abdel Isha est toujours en observation.
Nous sommes avec Mathieu Kassovitz et comme nous le disions, Depuis 1995, il s'est passé énormément de choses dans l'esprit de cet artiste, mais également dans l'esprit de notre société. Et l'exposition que nous visitons en ce moment a comme source la haine et les lieux dans lesquels cela se déroulait. D'abord, j'imagine que lorsque l'on a réalisé un film aussi important, culte au fond, que La Haine, s'apercevoir que pour les habitants des cités dont parle La Haine, c'est devenu un moteur et qu'on voit dans cette exposition à quel point ça les influence et qu'ils veulent lui rendre hommage, est-ce que vous avez l'impression que les problèmes sont les mêmes, c'est la première question, et que la création, pour eux, est une réponse?
Alors, déjà, il ne faut pas parler des gens des cités. Là, on parle des gens qui sont des cités ou pas et qui se sont inscrits à l'école de l'Adjli et des JR et qui ont fait cette démarche-là. La Haine n'est pas un film qui influence les cités à un niveau artistique au quotidien. Il y a des gens qui ont bien réagi au film et qui le portent avec nous depuis 25 ans. Il y a des gamins qui avaient mon âge, qui avaient 25 ans à l'époque, qui ont 50 aujourd'hui, mais on ne peut pas dire que le film ait porté les quartiers. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a influencé et qu'il a...
Il a permis beaucoup de choses, ce film.
Il a donné l'inspiration à certains jeunes des quartiers qui ont eu cette démarche-là. Alors, soit c'est le film qui les amène à une démarche artistique, soit c'est eux qui ont une démarche artistique et qui n'ont pas besoin du film. Donc, ce qui est intéressant là, c'est de voir que c'est des gens qui sont... C'est pas inspiré par le film, c'est inspiré par...
Quelques œuvres néanmoins sont directement liées au film.
Oui, mais c'est leur interprétation de ce que serait la haine aujourd'hui, de leur façon de le voir. Mais c'est pas le film. Le film n'est pas comment dirais-je. Le film n'est pas.
Il n'est pas pris au premier degré.
Le film est un exemple parmi tant d'autres.
Ça a été une impulsion qui est à l'origine du développement de cette école aussi, de ce mouvement d'abord, cette collectif et puis ensuite de l'école, non?
Je suis juste plus vieux. S'il y en avait un d'eux qui avait été plus vieux, moi j'aurais été inspiré par eux.
Écoute, on va pas refaire l'histoire.
L'idée, c'est qu'on s'est tous inspirés les uns des autres et on a tous. En fait, moi je pense que c'est purement de l'arithmétique. Il y a des générations qui naissent à des endroits spécifiques. Les banlieues en font partie. Ils ont un temps d'adaptation, un temps de réaction. Et ensuite un temps de comprendre l'univers, l'environnement qui les entoure pour pouvoir en tirer le maximum. Mais ça prend du temps, ça prend des générations. À l'époque, quand on parlait de La Haine, on disait c'est un film générationnel. Je dirais on verra ça dans une génération.
Mais deux générations après, c'est encore un film générationnel.
C'est pour ça que c'est intéressant. Pourquoi on dit deux générations? Une génération, c'est 12 ans.
Oui, je dirais oui. Non.
Bah, pour moi, une génération, c'est le temps pour un quelqu'un de devenir adulte.
Alors,
donc 25 ans, pour moi, c'est vraiment une génération. Et c'est ce qu'on voit. Il y a des artistes ici qui n'étaient pas nés au moment où le film est sorti. Donc c'est vraiment une... Mais ce n'est pas un passage de relais comme le film n'est pas un objet qui... C'est plus l'énergie qui est relayée. C'est pas le film en lui-même avec ou sa fabrication, mais c'est l'énergie qu'il a amené avec lui et le fait qu'il ait révélé à plein de gens un univers qui était caché et qui n'était pas révélé. Et à l'intérieur de cet univers, avec la confiance, avec le temps, avec le développement personnel, ben il y a des pépites qui sont développées. Et maintenant, il y a plus de moyens pour eux de se faire connaître, que ce soit technologiquement parlant ou avec des initiatives comme ce que fait Contragemé.
Il y a une rengaine dans le film qui est l'important n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Vous le sentez comment, l'atterrissage?
L'atterrissage est toujours... l'atterrissage d'une chute n'est jamais bonne, mais après, si on sait piloter l'avion, on peut se poser doucement, mais moi, de ce que j'en vois, je ne pense pas que ça va bien se terminer. Pour ça, profitons-en.
Profitons-en, oui. Je trouve qu'il y a quelques-unes des propositions artistiques qui ont été faites par les étudiants qui sont absolument enthousiasmantes. Hein. Donc je suis extrêmement frappé par la qualité et l'exigence qu'ils ont eue et la façon dont ils sont donnés dans l'aventure. Ils sont dans un endroit, est-ce que vous pensez qu'ils sont dans un endroit qui ressemble à la galerie de peinture qui était dans La Haine?
Il y a un peu de ça. Il y a un peu l'idée. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la différence de la galerie de peinture dans La Haine, ils sont leurs propres spectateurs et les gens qui sont ici sont des gens qui ne vont pas forcément dans les musées. On a l'intérêt de cette expo, c'est que ça aussi, ça a attiré des gens qui ne seraient pas forcément là. À l'inverse de la scène dans le film où tout le monde est à sa place.
Un numéro de téléphone, 11 mois plus tard, on se voit.
Ah ouais, d'accord. Okay. Hey, mais vous êtes tous pareils. Il y a ton pote qui nous dit que tu veux discuter.
Tu veux discuter? Tu veux discuter de quoi?
Vraiment, vous
de quoi tu veux discuter?
Vous faites chier, hein, vraiment. Nous, on veut bien parler avec vous, mais tout de suite, je sais pas, vous êtes agressif. Comment vous voulez qu'on vous respecte?
Bah attends, mais tu fais plus pour qui? Tu vois, la mec qui fait la pub pour moins d'un bras, là, ou quoi? C'est quoi, c'est de vous confier? Vas-y, viens, les
gars. Mais arrête!
Messieurs!
Ça va,
non, papa, il n'y a pas mort d'homme. Donc tout va bien. S'il te plaît.
On se calme le jeu. Dites à votre copain d'arrêter.
Tu le codes, c'est pour mon copain que tu me parles, je reste partout.
Et d'ailleurs, dans cette scène, c'est le père de Mathieu qui joue le galeriste.
Qui joue votre rôle.
Très étonnamment, il s'est inscrit dans les 500 candidatures qu'on a reçues pour participer à ma section à l'école Contragemé. Alors j'étais extrêmement surpris. J'ai dit à Aladj, parce qu'on m'a écrit, on m'a dit, quelqu'un de l'école m'a dit, mais attends. Il y a un Kassovitz, Peter Kassovitz.
Mon père m'a dit, il a regardé dans les petites impressions et il a vu qu'il n'y avait pas de limite d'âge, donc il s'est inscrit.
Il a bien fait. Il apprend beaucoup, j'imagine.
Il est prêt à apprendre.
Les sélections se passent en ce moment.
À mon avis, il fait l'élève, mais il veut rentrer dedans pour après pouvoir dire à tout le monde comment il faut faire.
L'école Contragemé, donc elle a 3 ans, c'est la 3e année là maintenant.
Alors, elle a 2 ans. Pour le cinéma et pour moi 1 an seulement puisque j'ai rejoint l'école 1 an après.
Ça promet ?
On est une toute jeune école et on apprend nos erreurs. Donc on est tellement petit que finalement quand on fait des erreurs, on corrige le lendemain. Donc on a une flexibilité énorme et les étudiants des années passées, donc surtout pour le cinéma où il y a déjà une année d'avant, sont encore dans l'école et les miens ne vont pas partir non plus. Donc en fait, personne ne veut partir, tout le monde reste, et cette espèce d'énergie. Et alors, ça ne peut pas continuer à être vitam comme ça, mais pour l'instant, de ce petit format, ça permet cette liberté et aussi cette mixité où tout le monde est collé les uns sur les autres et en création constante. Et même pendant le confinement, il y a eu des cours tous les jours, des masterclass, dont celle de Mathieu aussi qui a dû se faire en... On l'a fait par les réseaux sociaux via Instagram. D'autres les ont fait par Zoom, comme Ernest Pignoranès qui en a fait une aussi. Et on les rendait publics automatiquement pour que tout le monde puisse en profiter. Ça nous a donné une idée d'ailleurs, c'est que la prochaine rentrée, on veut mettre les cours en ligne aussi, gratuits, ouverts à tous, pour que les gens puissent suivre de chez eux.
Ouais, c'est super. Poésie et béton, ça peut aller ensemble donc?
Bien sûr.
C'est la base.
La poésie dans les fleurs est une facilité qui n'est pas forcément, qui n'a pas le romantisme de... Et la dimension de la poésie. Donc, oui, il n'y a rien de mieux que raconter le dur avec du doux.
Ouais. Merci infiniment, Mathieu.
Merci à vous.
Merci, JR.
Merci.
Bon, on va interviewer les étudiants. Il se peut que je vous pose encore une autre question si vous traînez un peu par là.
On est là.
Mais merci. Donc, Hugo Surprise, c'est quasiment une des premières œuvres que l'on voit dans l'exposition. Ce sont des photographies et je n'arrive pas à savoir si c'est des photographies de mode faites par des marques luxueuses ou si c'est des photographies de banlieue. Qu'est-ce que c'est ?
C'est justement cette ambiguïté qui a inspiré Jibi, qui est l'artiste qui a travaillé ici, qui est l'artiste le plus jeune de l'exposition. Jibi, lui, a fait un shooting de mode comme une pub pour Vuitton. Mais qui questionne justement comment le monde du luxe regarde, s'inspire, vampirise les cultures de banlieue et du coup comment en quelques années la culture de la banlieue est désormais inspirée aussi par le monde du luxe. Et du coup il a demandé à Virgil Abloh, patron de la marque Homme Vuitton, de lui prêter des habits pour ensuite réaliser d'autres habits qui étaient des faux habits qu'il a réalisés avec des amis de quartier qui sont à l'IFM, donc de jeunes stylistes qui ont fait des sortes de nouvelles collections de Virgil Abloh. Il a fait ensuite un shooting qui mêle les vrais habits et les faux habits pour questionner cette appropriation culturelle.
C'est intéressant de voir que l'échange a eu lieu et c'est assez sympa que Virgil Abloh ait joué le jeu, en fait. Hein, c'était, on ne s'y serait pas forcément attendu.
Alors, toute l'exposition est très collective. Les élèves ont travaillé ensemble. Même ceux qui n'ont pas travaillé sur l'exposition ont aidé leurs camarades. Et ils ont appelé tout leur réseau, les amis qui vivaient avec eux, leurs copains, les parents et les gens qu'ils ne connaissaient pas comme Virgil, mais qui d'un coup participaient à l'aventure.
Et alors, à côté, il y a Tiam Bateau-Bélier. J'aimerais bien qu'on voit avec elle ce qu'elle a fait. Je vois un grand balcon avec une photographie tout en haut, au-dessus du balcon. Et ce balcon, je me trompe peut-être, mais ça me rappelle une scène de film.
Le film La Haine.
La Haine, ouais.
Du coup, on a essayé de le mettre en... On a désaturé, la photo était en couleur, on l'a mise en noir et blanc pour faire le lien avec le film de Mathieu Kassovitz, en l'occurrence. Et on a essayé d'habiller le balcon avec des pièces assez intemporelles. J'étais intemporelle, c'est-à-dire on ne sait pas dans quelle époque on se situe, 90, 2000, 2010, 2020.
Ouais, je vois un t-shirt avec Mohamed Ali, un autre avec la haine, un t-shirt de foot, un autre Street Fighter. Et ce balcon, effectivement, dans la haine, il a beaucoup d'importance puisqu'on voit la cité depuis la haine. Et je me souviens d'une scène de...
Killer qui mixe.
Ouais, voilà, c'est super bien.
Sur cette base, moi, c'est parti aussi du confinement, à savoir aussi que derrière ce balcon, il y avait des scènes de violence policière qui avaient été filmées. Et lorsqu'on nous a demandé de faire la filiation entre La Haine et Les Misérables, moi, je suis partie du confinement et j'avais commencé à écrire un poème sur mon smartphone.
Moi, j'aimerais bien qu'on monte sur le balcon et qu'on lise les poèmes qu'on peut lire depuis le balcon, puisque vous avez installé un système pour que depuis le haut du balcon, on puisse voir les poèmes. Et pendant qu'on marche, vous pouvez me dire un mot de la photographie qui est au-dessus ?
Alors, la photographie qui est au-dessus, c'est le collectif de l'école des Courtrage-Meufs, qui sont des étudiantes de la première promotion de l'école de cinéma Courtrage-Mé. 8 filles qui ont été prises par une incroyable jeune fille qui s'appelle Eléa. Donc, Eléa, elle a un projet qui s'appelle Ta Mère. Et derrière Ta Mère, ce sont des femmes fortes, inspirantes. On ne sait pas si ce sont des travailleuses du sexe, des activistes, ou tout simplement... Des réalisatrices, elle a pris des femmes.
Mais parce que là, sur le balcon en question,
là,
tout en haut,
ce
ne sont que des femmes.
Oui.
Et c'est vrai que quand on regarde La Haine, c'est souvent que des hommes. Quoi.
Justement, et d'ailleurs, c'est une des thématiques qui a été exposée par les élèves de l'école, dont Émilie. C'était de parler de la femme qui est en banlieue, qui existe et qui mérite aujourd'hui d'avoir une exposition dans le cadre du Palais de Tokyo, ça a été le cas, mais aussi dans les films de cinéma. Donc on a cette œuvre-là qui est une photo. On a une installation de la chambre de la sœur de Vince.
Oui, parce qu'on ne voit dans le film La Haine que la chambre du garçon et
exactement,
pas la chambre de la fille.
Et donc, Émilie a tout recréé. Donc là, on est, si vous partez sur cette install, vous êtes en 1997 et vous avez les cassettes VHS, les Spice Girls, les Pretty, toutes les références aux années 90 et le Star Club avec les chansons, les paroles.
Tiens, repartons sur vos poèmes.
Oui.
J'aimerais bien entendre un de vos poèmes. Est-ce que vous pouvez nous en lire un ?
Oui, alors c'est Balcon à découvert. Donc, c'est un poème que j'ai commencé à écrire lors du confinement sur les violences policières que je découvrais. Parce que pour ma part, moi j'étais confinée à Paris, mais ma famille et mes amis étaient en France, mais surtout à l'étranger. Et j'avais reçu des vidéos de violences policières qui avaient été filmées depuis des balcons. D'où le texte que vous allez voir là. Donc, je suis à Joburg qui redécouvre les joies violentes du couvre-feu. Les retardataires dégustent le fouet des habitués du non-lieu. Brigadier Sabari, Alkati Djegelou, Senzelina, confinés depuis leur balcon, leur écran à découvert, des voyeurs indiscrets m'ont capturé, je me mets au vert. Hors des murs, ils m'ont aperçu à Brunswick, en plein heure. Les mères désemparées ne peuvent protéger les leurs. Elles auront appris à marcher, les mains en évidence. Elles auront appris à sortir leur visage à découvert. Je les ai happées, cela va de soi. C'est toujours la même histoire.
Merci Tia.
C'est moi, merci.
Dans un film de John Woo, ratatata, tout bien fait du vaudou. Une balle dans le corps, un homme est bien mort. Les couleurs d'affiche se fichent du fait qu'on le commémore. Pas de balle à blanc quand il tire sur un noir. Triste histoire, un gamin tombe sur le trottoir. Les langues se délient, on dit que c'est d'un délit. Ils s'en foutent comme d'une grotte de nez à New Delhi. J'ai vu la concubine de l'hémoglobine jetée dans l'abîme. Un mec bien clean, camping. Quel est l'animal qui a appris dans le maquis à tirer des balles qui tuent comme les mecs en kaki? Si dans le ghetto chacun porte une arme, c'est que c'est plus facile à trouver que du shit à Amsterdam. Donc kung fu fou, on passe au kung fu. On voit des mecs fous et tout le monde s'en fout. Et de la mort, il ne voit qu'un trou, comme dans un film de John Woo.
Sur le chemin, on rencontre Nouta, justement, qui est photographe, et il y a quelques photographies au revers de la grande fresque de JR. On va regarder ça ensemble, Hugo. Alors, Nouta, de quoi s'agit-il ?
Bah alors, en fait, cette photo-là, je la dissocie un peu du reste de la série. C'est une photo prise en contre-plongée avec un jeune homme qui se dresse devant un immeuble avec un drap rose qui passe devant et derrière lui.
Photographie très sensuelle. Une couleur qui n'est pas forcément associée comme ça à la force de ce garçon.
Mm-hmm. Et bah justement, en fait, pour moi, cette photo, elle parle d'un jeune homme qui a d'une jeunesse masculine qui peut ressentir le besoin d'explorer son énergie féminine dans un environnement qui est dur et qui est imposant. Et du coup, ça parle de ça, ça parle de ce besoin sans qu'on colle des étiquettes d'orientation sexuelle ou quoi.
Sur
cette exploration d'énergie féminine et masculine qu'on a en nous, les deux, en fait.
La question est de ne pas forcément choisir, de passer de l'un à l'autre, d'être complet et pas simplement divisé, en fait.
C'est ça. Exactement.
Et j'aimerais bien qu'on aille voir une autre photo
pas
de vous.
Soucis,
laquelle allez-vous choisir sur l'ensemble?
Bah, c'est vous qui allez choisir, non?
Ah ben, je veux bien.
Dites-moi celle qui vous a...
Eh ben, moi, j'aime beaucoup celle-là et je me demande ce qu'elle est en train de grignoter.
Alors, justement, ce qui est intéressant, c'est que vous dites « elle » alors que c'est un jeune homme.
Alors, j'ai un visage devant moi. Je pensais « elle », donc c'est un jeune homme, comme vous le dites. Et... en train de grignoter quelque chose avec une main qui apparaît juste sur le côté de l'image. Je pense que c'est la sienne, mais je ne suis pas sûr.
Ouais, c'est la sienne.
Et dont les ongles sont magnifiquement peints d'un bleu ciel.
En fait, cette photo, elle fait partie de la série, donc il y a les deux autres là-bas. Je ne sais pas si vous les avez vues, qui complètent. Mais j'ai préféré la sortir de son contexte pour justement que ça soit un peu plus anecdotique et qu'on prenne le temps de se poser la question. Et ce que je trouve intéressant, c'est que tout le monde pense que c'est une femme.
Je l'ai pensé tout de suite.
C'est un jeune homme. Et c'est ça que j'ai envie de dire, en fait, c'est que peu importe, cette frontière entre les genres et le besoin de genrer tout ce qu'on voit, pour moi, il est plus d'actualité. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça.
Vous avez tout à fait raison. Merci beaucoup.
Merci à vous.
À bientôt.
Au revoir.
Hugo, sur le chemin, j'aimerais bien, si tu veux bien, il y a une œuvre quand même qui m'a beaucoup stupéfait, c'est ces chaises en béton. Alors, je ne sais pas si l'artiste est là, mais c'est ça, tu peux nous en dire quelque chose ?
Il est là.
Il est là. Comment s'appelle-t-il ?
Ismaïl.
Bonjour Ismaïl. J'ai vraiment trouvé très belle l'installation des chaises en béton dans une ruine qui ressemble à quelques ruines que je connais dans l'univers urbain.
Yes.
Et je serais curieux que vous nous en parliez. Qu'est-ce qu'elles viennent faire ? Ça dénonce ces chaises-là, ce n'est pas les monoblocs ?
Ce sont des chaises monoblocs en fait, que j'ai moulées, reproduites... En divers exemplaires, en fait, ce qui m'intéressait avec la chaise monobloc, c'est que c'était vraiment l'élément de mobilier urbain, de mobilier en général, le plus présent dans le monde. On estime à 1 milliard le nombre d'exemplaires en circulation. Et ça m'intéressait, en fait, de le reproduire et d'en faire comme un espèce d'élément de signalétique et de mobilier urbain à l'usage d'un certain type de population, peut-être. Mais en fait, ce qui m'intéressait aussi, c'était de les rendre chacune uniques et aussi d'utiliser le matériau avec lequel les... grands ensembles ont été construits depuis les années 60. En fait, c'est un matériau qui a été ramené par l'architecture brutaliste, mais qui par la suite a été réutilisé quand il y avait un besoin de logement de masse ou de loger des personnes.
Moi, il y a une chose que je ressens qui est un petit peu différente de ce que vous dites, mais vous me direz si je suis hors sujet. Il y a quelque chose qui me paraît lié à l'attente et à l'ennui quand je vois ces chaises.
C'est exactement le sujet qui m'intéresse. En fait, ça fait un certain temps que je travaille avec... notamment des gardiens de voitures au Maroc, où ça m'intéresse, les guetteurs, ça m'intéresse en fait les gens qui passent leur temps à attendre ou qui vendent leur temps, mais contre de l'attente en fait, contre une certaine
facilité. Les guetteurs, on les voit au bas des immeubles, dans les cités, à perdre leur temps,
à guetter,
simplement
en
à
fait,
guetter.
À attendre que quelque chose se passe.
C'est le désert des Tartares.
Ouais, c'est les guetteurs. Ce qui m'intéressait aussi dans ce métier, c'est qu'ils font du cop-watching en fait. C'est un cop-watching au service d'eux, mais bon, c'est quand même.
Je connaissais pas l'expression cop-watching. C'est quand même, on s'internationalise. Hein.
Cop-watching, ça veut simplement dire surveillance de police. C'est un terme très utilisé dans les médias ou même dans certains milieux pour l'instant.
Ah ouais, non mais je progresse.
C'est ce qu'a fait Latchley d'ailleurs pendant des années, parce que pendant des années, il vivait à la Cité des Bosquets avec sa caméra. Et il filmait le maire, les policiers en permanence. Et il s'est fait d'ailleurs connaître il y a très longtemps en filmant une bavure policière qui avait été diffusée sur rue 89.
Ah, bonne remarque, Hugo. Je ne connaissais pas ce détail. Mais effectivement, derrière toute l'exposition qu'il y a là, on ne va peut-être pas l'entendre aujourd'hui, mais il y a Latchley qui flotte, puisque au fond, le film Les Misérables montre bien la suite de l'histoire. Mais ce dont on ne se rend pas compte, c'est que cette histoire n'est qu'une histoire vraie. En fait, de la haine aux misérables, c'est une histoire vraie et les œuvres qui sont là sont ancrées dans cette réalité. N'est-ce pas ? Vous êtes d'accord avec ça ?
J'imagine bien, ouais. C'est pour ça aussi qu'on est là et qu'on a produit ces œuvres et qu'on veut parler de certains de ces sujets.
Alors, il y a une bagnole qui est suspendue dans l'espace. J'ai l'impression que vous avez envie d'en dire un mot. Une bagnole de flic. Racontez.
Dans ce travail, j'essaye d'interroger l'autorité du musée. Et cette bagnole, comme vous dites, vous pouvez voir que c'est une piñata. Son titre, c'est « Objet à détruire ». Et ce que je voudrais, c'est qu'un spectateur... Et prennent le cran de, par un moyen ou un autre, alors qu'elle est un peu inaccessible, c'est compliqué, la détruire. Et apparemment, quelqu'un l'a fait, vous voyez, c'est pas pour rien qu'elle est dans cet état.
Donc c'est pas vous qui l'avez bousillé ?
Non, moi j'ai juste mis en place
un dispositif. C'est un spectateur qui s'est dit, l'idée de ne pas toucher à l'œuvre dans un musée, on peut dépasser cette hypothèse.
Et oui.
Ça m'inquiète énormément, mais bon,
si c'est l'artiste qui le veut,
vite.
Ouais, mais si c'est l'artiste qui le veut, ici c'est le jeu.
Tout à fait d'accord.
L'œuvre, parfois, dépasse juste l'objet. Et,
c'est l'artiste qui commande. Merci, super. Hugo Vitrani, vous nous emmenez voir une autre œuvre. J'ai vu un volcan là.
Est-ce que tu veux passer vers les fantômes avant ?
Oui, vers les fantômes. Avant d'aller voir le volcan, on va voir les fantômes. Hugo, on vous suit.
Ici, on est face à un diptyque de photographies qui ont été réalisées par Joyce. Et Joyce, quand on lui a posé cette question, qu'est-ce qui te fout la haine en 2020 ? Elle a tout de suite parlé du nom des rues. Les 223 rues qui ont un nom lié au passé colonial de la France. Et donc elle a décidé de faire ressurgir les fantômes que cachent ces rues en s'attaquant à la rue Colbert et l'avenue Léopold II, juste à côté du palais de Tokyo, pour venir la nuit projeter dans ces rues, sur l'architecture de ces rues, des fantômes, des images d'archives liées à l'esclavage. Et donc elle rappelle qu'il y a 223 rues qui ont un lien avec ce passé colonial, mais qu'à Paris, il n'y a que 2% de rues qui ont des noms de femmes. Et donc elle propose de remplacer tous ces noms par des noms de femmes.
Et c'est vrai que ce chiffre de 2% de rues qui ont des noms de femmes, quand je l'ai entendu dire par vous, ça me fait honte. Hein. Changeons l'affaire. On va rester là, mais parce qu'on voit de loin très bien un volcan, c'est-à-dire un ensemble d'écrans qui a une forme de volcan, et au bas desquels il y a effectivement une explosion de volcan, et au-dessus des scènes de bataille de rue, bataille flic et voyous, comme on disait autrefois.
Exactement, ce volcan a été réalisé par trois artistes, trois élèves qui se sont mis ensemble, qui ont travaillé collectivement pour questionner le rôle de l'image des bavures policières aujourd'hui, en rappelant qu'il y a 25 ans, il n'y avait pas d'image de bavures policières, ou très peu, et qu'aujourd'hui, on a une saturation de ces images, mais qui ne racontent pas la même chose, en fonction qu'elles sont utilisées sur les grands médias comme BFM, ou de manière militante sur les réseaux sociaux. Et donc, elles questionnent ce rapport entre la réalité et la fiction, et du coup, elles entrecoupent toutes ces images cacophoniques de réalité, des images d'archives qu'elles ont trouvées sur Internet, à la télévision, sur les réseaux sociaux, avec des images de la haine et des misérables qui sont parfois plus violentes que les images de réalité.
J'ai remarqué ça, oui, c'est impressionnant. Et au fond, ce que veut dire le collectif qui a travaillé là-dessus, c'est que les images ne transmettent pas la vérité.
Effectivement, elles se posent la question de savoir si dans 20 ans ou dans 10 ans, une image suffira à prouver une bavure policière.
Il n'y a plus personne là. On n'est pas dans sa cité. Avec ses potes les casseurs. Allez, vas-y, ramasse. Tiens, ramasse avec tes pieds. Toi, dans ton pays, ramasse avec les pieds. Hein ? On ramasse tout avec tes pieds dans ton pays. Hein ? Autrement, regarde, on est bien là. On n'est pas pressé encore. Parce que tu sais que dans 2 heures, ils sont peut-être sortis, ces deux-là. Enfin, profitez, parce que... Hein ?
Pour profiter ? Hein ?
Hein ? Tiens. Non, juste comme ça, regarde, comme ça. Voilà, comme ça. Et après, voilà, c'est ça. Après, tu t'arrêtes juste comme il faut. Le plus dur, c'est d'éviter la bavure. C'est pas l'envie qui manque. On ne fait pas toujours ce qu'on veut. Pas vrai? Ah, fils de chienne.
Continuons, Hugo. Voir les peintures. Bonjour, Akeju.
Bonjour.
Hugo vient de nous attirer vers le mur de peinture très technique, très virtuose là, que je vois là. C'est d'ailleurs un savoir-faire inattendu dans l'exposition. Je m'attendais plus à voir que des vidéos, que des photos. Et peinture, c'est rare, non?
Je ne sais pas si c'est rare, mais effectivement, c'est peut-être quelque chose qui peut attirer l'œil dans un environnement composé essentiellement de peinture.
Et ce ne sont pratiquement que des personnages. C'est la vie des êtres qui semblent intéresser votre pinceau.
Exactement, l'idée c'est vraiment de donner la parole, donner vie aux gens. Et en particulier pour cette exposition, où dans le contexte dans lequel on évolue, on entend beaucoup parler des violences policières. Moi j'avais à cœur en fait de présenter les deux côtés, à savoir des policiers, mais aussi des émeutiers, des individus lambda. Et l'idée c'était vraiment de partager les points de vue et essayer de rester dans la zone grise, composée d'individus assez hétéroclites, et à qui ensuite j'ai donné la parole avec des interviews ensuite que j'ai réalisées après les avoir tous peints.
C'est que des personnages réels et des personnages de la cité.
Il y a aussi des policiers.
Il y a aussi des religieux.
Ouais.
Vous pourriez me décrire et me commenter la personnalité du tableau que je vois, par exemple, celui qui a un chapeau marqué Lewis. Vous pouvez nous décrire le tableau et nous dire qui c'est?
Ouais.
C'est un grand tableau, non?
Ouais, bah en fait, cette personne, il s'agit d'un jeune de Montfermeil, qui du coup...
Il a l'air très jeune, hein.
Bon, bah c'est peut-être le côté, en fait, les hachures sur le visage, enfin mon style de peinture qui donne cet effet-là. Et l'idée, en fait, c'était que lui, c'est quelqu'un qui fait partie de la section web-série de l'école, et qui a cœur, en fait, de raconter son histoire. Et l'idée de toute cette exposition, en fait, de mon installation, moi, c'est d'apporter des témoignages.
C'est quoi son histoire?
Bah lui, il veut raconter son expérience en fait à Montfermeil, de jeune des quartiers de Montfermeil, qui est probablement loin des stéréotypes qu'on a tendance à leur apposer, quoi.
Et le couple qui est là-bas sur un, qui sont les deux personnages sur un canapé, un grand barbu et un grand black.
Bah eux, c'est des personnes qui ont participé aux émeutes en fait de Montfermeil en 2005 et qui du coup maintenant ont un rôle de médiateur au sein des jeunes, auprès des jeunes.
J'ai l'impression que celui de gauche, je l'ai vu dans la.
Bah, du coup, bah, il joue le rôle d'un médiateur du coup dans...
Dans quel film? Dans La Haine ou dans Les Misérables?
Dans Les Misérables, ouais. Il joue le rôle d'un des médiateurs du coup qui recadre un petit peu les gamins.
Il
quoi.
Vient de dire, soyez sages, j'ai entendu dire que... Hein, et demain, venez à la mosquée.
Exactement.
Un truc comme ça dans le film, hein, il me semble.
Exactement.
Il aide aussi beaucoup au Bosquet. Il a une association qui s'appelle Assez le Feu, où ils aident beaucoup. Ouais. Pendant le confinement, ils ont donné beaucoup de nourriture aussi aux habitants là-bas. Donc c'est quelqu'un de très actif. Dans le quartier.
Et celui qui est à sa droite,
c'est des compères en fait. Les deux ils fonctionnent ensemble.
Et du coup on a vraiment tous les amis
Hugo
de Racajou. Et donc on a tous ces amis qui peuvent être des crapules dans tous les sens, ou des gens qui ne sont pas des crapules mais qui sont tous dans une zone grise, et à travers la peinture, toutes leurs voix et toutes leurs histoires se confrontent et font la paix. Puisque du coup ces gens d'habitude ne se parlent pas et parlent ici de leur rapport à l'autorité ou au désordre. Et normalement, quand ces gens se rencontrent, ça se passe pas très bien. Et dans cette peinture, au contraire, il y a une figure de paix qui est du coup, ce tableau de la mère de Racajou, qui symbolise la paix potentielle et possible qui peut arriver par l'art, justement.
Merci beaucoup, Racajou.
Merci à vous.
Du coup, si on allait en cage.
Allons dans la cage.
Ah, donc, il y a une cage dans l'exposition, avec à l'intérieur de la cage, quatre moniteurs autour de nous. Qui diffuse la même série d'images, d'après ce que je vois, c'est il y a le feu, quoi.
Tout à fait.
Racontez-nous.
Alors en fait, maintenant le feu, c'est la deuxième installation du projet qui s'appelle maintenant le feu, le grand projet. Et en fait, j'ai essayé dans cette installation, donc ces quatre écrans qui sont dans une cage, dans des barres de prison. Et j'ai essayé dans cette installation de recréer l'émotion. D'avoir la haine, en fait, cette émotion quand on a la haine qui monte en nous, ce feu qui brûle à l'intérieur, et quand on est confronté à une injustice. Et en fait, j'ai essayé de recréer voilà, cette émotion, cette montée de feu en nous, et cette émotion qui emprisonne, qui encage, qui enferme, et qu'on soit la meilleure des personnes ou pas, quand on est confronté à une injustice, on a envie de tout cramer.
Et Pastienne, puisque c'est votre nom, vous êtes furieuse?
Un petit peu, oui.
Il y a deux films, et c'est le même sujet, les deux?
En fait, non, c'est le même film, c'est juste que j'ai fait composer du coup une bande-son en trois parties.
Et donc il y a une première partie qui est que des sons directs d'émeutes, donc des vrais sons. Et ensuite après, petit à petit, on arrive avec de la musique, etc. Et en fait, c'est que des vraies images que moi j'ai filmées, ou des courts-métrages meufs de mon collectif.
Vous, c'est le collectif Courtrage Meuf, JR nous en parlait tout à l'heure.
Tout à fait.
Et donc ça, c'est que des femmes qui se sont associées.
Tout à fait, on est 8,
dans l'école.
8 réalisatrices de la première promotion de l'école Courtrage Meuf. Et du coup, on s'est associées parce qu'on travaille très bien ensemble et qu'on est très amies. Et donc, du coup, on s'est associées. Aujourd'hui, on fait de la pub, du clip, de la fiction et du docu.
Et il y a un bureau à côté de la cage, c'est vous également ?
Tout à fait, c'est moi.
Racontez-nous, parce que j'ai l'impression que je vois des gens qui font la queue et qui sont en train de prendre des papiers, ils ont l'air de signer quelque chose. Ouais. Qu'est-ce qui se passe sur ce bureau ?
Alors en fait, c'est un bureau de démission où j'invite les policiers, les politiques et les médias à démissionner. Et maintenant, en fait, j'invite aussi tous les gens qui veulent se défaire du rôle qu'ils ne veulent plus avoir dans le système à démissionner, à le quitter. Et en fait, c'est une manière de réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'on représente dans le système, quels sont nos privilèges ou pas, et de quoi on a envie de se défaire, et juste réfléchir à ça en fait, à qui on est et quelle place on a.
Donc démission ?
Démission.
Dites-moi Bastienne, le titre de l'installation, c'est quoi et d'où vient-il ?
Alors le titre, c'est Maintenant le feu, et en fait il est inspiré du titre du livre de James Baldwin, La prochaine fois le feu, qui a été publié en 1962-4, au début
années 60, ouais.
Quoi. Et du coup, maintenant le feu, parce qu'on est en 2020 et que ça suffit.
Ça suffit.
Voilà.
Écoutez, quand on voit l'exposition, ça crée, cette violence crée une intensité absolument passionnante. C'est une bonne expérience d'être dans cette école ?
Ah, c'est la meilleure expérience de ma vie. Ça m'a sauvé la vie, je pense. Et ouais, c'est. Bah, en fait, aujourd'hui, je fais ce que j'aurais aimé faire tous les jours. Je le fais et je suis entourée de personnes hyper inspirantes. On échange tout le temps. On apprend, on nous fait confiance et ça fait du bien.
Vous pensez que c'est une grande expérience dans la vie de ceux qui font partie, qui sont dans l'exposition ? Tous disent à peu près la même chose ?
Je pense que ça a tous changé notre vie, ouais. L'Adji, il a vraiment changé notre vie.
Merci Bastienne, merci. Hugo Vitrani, puisque vous êtes l'instigateur de ce projet.
Ça dure une seconde. Donc là, on vient d'être interrompu par... Un bruit parasite, c'est une installation sonore de Yacine qui a voulu recréer l'explosion d'une grenade de désencerclement, puisqu'on sait aujourd'hui dans les médias les dégâts que ça peut causer sur les mains, les jambes, le corps, mais tant qu'on n'a pas été face à ça dans une manifestation, on ne sait pas le choc que ça peut être. Et donc toutes les heures, de manière aléatoire, une grenade explose sans prévenir personne et du coup perturbe toutes les autres œuvres d'art.
Bon, il est où le Tushi là ?
Hier soir, pendant les émeutes, un moment je cours, je passe derrière une tour, d'après le coin, paf, je tombe sur une vache.
Ah ouais ? Vas-y, arrête de fumer, toi, ce truc-là, ça fait vraiment du mal.
Allez, dégage de mon lit, j'ai même envie de vous fumer de la drogue, là.
Vas-y, dis-lui, après je t'égorge, et puis après je t'attrape pas les pieds, je te pompe pour que tu t'étouffes avec ton sang.
Vas-y, bouge, toi.
Mais tu peux même pas sur mon lit, toi.
Mamie !
C'est ça, ouais.
Allez, vas-y, casse-toi. Balance,
toi, bouge, là.
Bouge, toi.
Et toi, arrête.
T'es gorge.
J'en pas comme ça à ma soeur, tu vois.
Et donc, nous partons maintenant avec Émilie Pria. Émilie Pria, vous venez nous raconter. Tia nous en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais j'aimerais bien que vous nous racontiez l'origine de la pièce et qu'on va le faire d'ici. Et okay. Pour pas se rapprocher trop du bruit, là, on peut vous écouter. Racontez-nous.
Alors moi, en voyant le film La Haine, j'ai remarqué qu'il y avait quelques personnages féminins que la caméra ne faisait que effleurer. Et en fait, moi, je me suis posé la question de savoir si jamais j'avais envie de m'identifier à d'autres personnages que ceux qui étaient proposés. Est-ce que j'avais vraiment le choix ? Et du coup, pour remédier à cette impossibilité-là, j'ai décidé de choisir un personnage qui est celui de la sœur de Vince, qu'on voit à peu près 2 minutes dans le film, qui elle a un prénom dans le scénario, donc c'était celle avec laquelle je partais avec le plus d'indices. Et donc j'ai décidé de m'intéresser à elle et puis de créer son personnage et de me donner la liberté de m'amuser à savoir, à chercher qui elle est, son passé, peut-être son futur, et à reconstituer son espace intime, à lui redonner un prénom, qu'on n'entend pas dans le film.
Comment elle s'appelle-t-elle ?
Elle s'appelle Sarah. Et donc dans le titre, je lui redonne le prénom. Donc c'est La chambre de Sarah ou La chambre de la sœur de Vince en 1997. Ça, c'est le sous-titre. Et en fait, du coup, de lui donner un, de lui redonner une intimité, un prénom, une existence et aussi un corps, puisque je performe tous les jours dans la chambre pendant quelques heures.
À quoi ressemblent vos performances ?
Eh ben, j'active en fait l'espace à la manière d'une caméra qui vient montrer certaines choses. Moi, je viens montrer et activer en fait. Par exemple, il y a plein de choses dans les tiroirs, dans les armoires, mais ça, vous pouvez pas le voir seulement quand du coup je vais aller chercher.
Qu'est-ce qu'il y a dans les tiroirs de son bureau ?
Dans les tiroirs de son bureau, il y a des cahiers, il y a des livres, il y a des billes, il y a des Scooby-Doo, mais il y a aussi un grinder, il y a un peu de shit, il y a des feuilles. Enfin,
dans
y a
le palais
vraiment...
de Tokyo, mais c'est un scandale. Et, et les bouquins, c'est une intello ou quoi ?
Ben en fait, c'est une fille studieuse. Ça, on le voit déjà dans le film, qu'elle est studieuse. Elle est rattachée au monde de l'école plusieurs fois dans le peu de temps où on la voit. Et en fait, là, il y a un livre d'ailleurs qui est tombé tout seul. C'est un vieux livre de mathématiques d'Europe de l'Est, puisque c'est une famille juive polonaise. Et donc, à la base, cette jeune fille, elle voulait faire des sciences, comme moi. Ça, c'est aussi de l'autofiction. Moi, j'ai fait des sciences avant. Mais avec ce qui s'est passé, donc c'est 97, deux ans après la mort de son frère. Là, on voit les livres qui sont sur son bureau. C'est des livres de droit, de liberté fondamentale. Et donc, en fait, elle a peut-être se diriger vers des études de droit pour défendre des cas similaires à ceux de son frère.
Belle fiction. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Mais sur le chemin, je vois, et je suis un peu surpris, des motos avec des photographies qui sont collées dessus. Et des photographies de quoi ? De rodéo, Hugo Vitrani ?
Ici, on est sur une sculpture de Ismaël. Ismaël, c'est un jeune photographe qui a décidé de faire une de ses premières grandes sculptures au Palais de Tokyo. Et il a voulu rendre hommage à tous les jeunes qui pratiquent dans les cités les nouveaux rodéos. Ces rodéos sans casque, en motocross, donc des roues arrière furieuses avec plein d'acrobaties.
Trace carbone pas terrible, là, non ?
Trace carbone pas terrible, casier judiciaire pas terrible non plus, puisque lui a voulu rendre hommage à cette pratique qui est évidemment clandestine, illégale, et qui finit souvent en faits divers, puisqu'il y a souvent des arrestations ou des sujets sur les nuisances, on le voit souvent dans les médias, et aussi des histoires de bavures policières dans les courses-poursuites, puisqu'il y a parfois quelques collisions.
Quel est le... Donc cette sculpture, donc la moto est éclatée, on a l'impression d'être pas loin d'un moment de bricolage de la moto, il faut la gonfler, il faut... Alors, mais ça devient une sculpture en fait.
Alors, au-delà du bricolage, on est vraiment sur une moto qui a été éclatée, qui sert de support pour ces photos. Les photos révèlent la dynamique qu'on peut retrouver dans cette pratique, dans ces jeunes de cité, leur acrobatie, cette acrobatie furieuse. Mais l'éclatage de la sculpture parle surtout de tous ceux qui sont accidentés et de tous ces problèmes qu'il y a eu dans cette pratique, notamment quand la police tamponne ces jeunes pour les rattraper.
Il y a un petit côté Mohamed Bourouissa, le travail qu'il avait fait avec les chevaux, qui était magnifique aux États-Unis.
Alors sur plusieurs œuvres de ces artistes, on sent le regard de Mohamed, qu'il ne connaissait pas forcément, mais dont on a beaucoup parlé depuis. Mohamed Bourouissa est un peu un fantôme dans cette exposition et on se rend compte que le regard qu'il a porté depuis des années avec son travail continue d'être très juste et d'être repris par des plus jeunes, notamment par Tatiana qui a fait cette série de 12 photographies où elle a repris 12 séquences de la haine pour les faire rejouer aujourd'hui, 25 ans après, pour montrer que rien ne change mais qu'en même temps des détails changent. Et donc elle est allée en banlieue de Metz, en banlieue de Lyon, en banlieue de Paris, en banlieue de Marseille, pour retrouver des vrais dealers, des vrais vendeurs d'armes, des vrais breakdancers, des vrais éleveurs de chevaux, et pour les remettre en situation comme dans la haine, mais aujourd'hui...
L'éleveur de chevaux dans la cité, c'est assez bluffant et très inattendu quand même.
C'est devenu très à la mode, le cheval est le nouvel objet collector de mode dans les cités.
Incroyable. Hugo Vitrani, là, on vient de faire un tour très sommaire, mais déjà qui nous met en appétit de cette exposition singulière. Il y a deux choses que je voudrais dire. D'abord, il n'y a pas seulement de la protestation dans l'exposition. On sent qu'il y a aussi un désir d'apparaître avec dignité dans la vie de la création en général.
On voit qu'on est face à des jeunes artistes qui ont des regards, qui ont des expériences et qui veulent les partager, et qui veulent les partager à égalité de tous les autres artistes qui sont des visionnaires aussi et qui veulent aussi nous ouvrir les yeux, puisque nous, notre monde en tout cas, le monde de l'art, a parfois les yeux trop fermés, donc ils viennent un peu comme ça nous ouvrir les paupières de manière un peu brutale.
Et la deuxième chose, c'est vous avez l'impression, vous n'avez pas choisi cette école en pensant qu'il y avait à l'intérieur de grands artistes. Il y en a quelques-uns qui donnent l'impression de pouvoir le devenir et c'est très excitant. Je vois derrière moi, par exemple, un dessinateur qui dessine des fragments des restes d'instruments de destruction dans les manifestations et qui sont remarquables comme dessins. Mais par moments, et par exemple celui-là, c'est sage en même temps.
Parfois c'est très sage, on est effectivement sur des très jeunes artistes qui ont parfois peu d'expérience, qui ont eu aussi le poids de l'institution, la peur de peut-être aller trop loin, et qui aussi avaient le poids des sujets, comment parler des baveurs policières aujourd'hui sans être dans le cliché. Et donc ils ont toujours trouvé des formules, des formes, des manières d'évoquer ces sujets, mais pas de manière trop frontale parfois. Mais ça dépend dans les films, puisqu'on a une salle de cinéma aussi avec 7 courts-métrages, donc plus d'une heure de films qui sont diffusés. Il y a des choses qui sont un peu plus directes, qui mettent en scène des bavures policières, des meurtres, et qui sont un peu plus soutenues et un peu plus, voilà, un peu moins gentilles.
Une grande aventure pour le Palais de Tokyo, c'est quand même aussi une ouverture d'un haut lieu de l'esthétique au temps contemporain, à notre temps contemporain. Est-ce que c'est pour le Palais de Tokyo une réussite ?
Alors je crois que c'est la mission du Palais de Tokyo d'aller regarder au-delà des foires d'art contemporain et des grandes biennales du monde entier, et d'aller chercher des nouveaux regards, d'aller aider des artistes à construire leur regard, peut-être à se tromper, à faire des mauvaises œuvres, mais c'est à nous de les propulser, c'est à nous de les aider, de les accompagner, et même de les aider à se relever s'ils tombent.
En tout cas, l'enthousiasme public est là, et c'est tellement encourageant de voir tous ces jeunes de toutes les origines qui sont là et qui sont apparemment passionnés et si heureux qu'on parle enfin d'eux. Merci beaucoup Hugo Vitrani.
Merci Jean.
C'est l'histoire d'une société qui tombe et qui au fur et à mesure de sa chute se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. L'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage.
La matière, c'est la vie aussi.
Toutes ces idées qui viennent, il faut les attraper comme des mouches quand elles passent. Ce sont des idées bleues, des idées roses, des idées qui passent.
Parce qu'on veut transformer la vie pour un
moment. C'était L'art et la matière par Jean Deloisy, une émission conçue en collaboration avec Lila Bozès et Seam Boutata. Prise de son, Élodie Royer. Réalisation, Thomas Jost. Merci Thomas. Et aujourd'hui, au Palais de Tokyo, pour l'exposition Jusqu'ici tout va bien, j'ai reçu Mathieu Kassovitz, J.R., Hugo Vitrani, Ernest Pignon-Ernest et les étudiants de l'école Courtrage-Mé. Vous retrouverez évidemment toutes les références et musiques des livres sur le site franceculture.fr et la semaine prochaine, nous irons à la rencontre de Léon Spilart, les angoisses splendides de cet artiste symboliste. Bon après-midi sur France Culture.